Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéens. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Cette semaine dans Univox, création sonore et écologie s'entremêlent pour vous faire découvrir la beauté du milieu marin et l'importance de sa préservation. D'après le ministère de la Transition écologique et solidaire, en 2019, il est estimé à environ 5 000 milliards le nombre de particules plastiques flottant à la surface des mers. Les conséquences sont catastrophiques sur la biodiversité marine. Grand nombre d'espèces sont impactées par ces déchets. 94% des estomacs d'oiseaux de mer du Nord contiennent du plastique et 86% des tortues marines les ingèrent en les confondant avec le zooplancton. Même si de nombreux accords et solutions ont été mis en place aujourd'hui, la sensibilisation à ces questions environnementales reste fondamentale et peut être aussi abordée à travers la médiation scientifique, mais également par l'intermédiaire de pistes créatives. Radio U, la Radio Campus de Brest, vous plonge dans le travail de Flore Samaran, enseignante chercheuse à l'ENSTA, et Zoé Sulico, créatrice sonore, que nous avons eu l'occasion de rencontrer lors de la dernière édition du festival Longueur d'onde, le festival de la radio et de l'écoute à Brest. Pour commencer, nous partons à la découverte des vocalises de baleines et de l'acoustique sous-marine. La chercheuse Flore Samaran sonde pour nous les mélodies insoupçonnées des océans.
Alors, je m'appelle Flore Samaran, je suis enseignante-chercheure à l'ENSTA Bretagne. Donc, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui se trouve à Brest. Alors, dans mon métier d'enseignant-chercheur, j'ai une partie d'enseignement. J'enseigne aux étudiants de première année, du traitement de signal et puis différentes choses qu'on apprend à l'ENSTA. Et en tant que chercheur, je travaille dans un laboratoire. Je travaille en traitement de signal, image et son. Et donc, moi, je suis plutôt spécialisée en son et en acoustique passive. Donc, ça consiste à mettre un micro sous l'eau et à écouter les paysages sonores sous-marins. Et moi, de ces paysages sonores sous-marins, j'en extrais surtout les signaux sonores émis par les mammifères marins pour travailler de l'environnement, des questions de biologie, conservation, écologie.
Vous travaillez sur les baleines. Il en existe combien aujourd'hui dans le monde ?
Alors, il y a à peu près 200 espèces de baleines. Moi, je travaille depuis très longtemps sur la baleine bleue. Donc, je travaille déjà sur les grands rorquals. Le rorqual commun, c'est le premier cétacé sur lequel j'ai travaillé. Et puis, rapidement, j'ai étudié la baleine bleue. C'est vraiment ma préférée. Pour plein de raisons. Et puis voilà, en tout cas en termes d'acoustique, elle fait vraiment des sons qui sont pas super mélodieux toujours, mais c'est intéressant. C'est une espèce qui a été tellement chassée et qui me fascine parce que c'est le plus gros animal sur laquelle, qui a jamais vécu sur la Terre. Et se dire qu'on a failli tuer cet animal-là, on était vraiment au bord de l'extinction. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire en tout cas pour essayer d'en apprendre plus sur sa présence et puis la reconstitution des populations, c'est ce qui me plaît vraiment, quoi. Puis elle est belle.
Quel est le matériel que vous utilisez pour enregistrer les bruits sous-marins ?
Alors, on utilise différents types d'instruments. On va utiliser donc des micros sous-marins autonomes, donc qu'on appelle des hydrophones. Donc, c'est des instruments avec un capteur étanche et puis tout un système qui va transformer le son et le stocker. Et c'est autonome, donc ça alimente avec des piles. Ça peut rester un mois à l'eau. On va utiliser aussi des petites balises qu'on va parfois coller sur la baleine avec des hydrophones et un système d'enregistrement pour être vraiment au plus proche de la baleine. Et puis, récemment, on a testé aussi un glider sous-marin, donc c'est un planeur en fait qui va aller jusqu'à 700 mètres puis remonter et voyager comme ça. Il peut prospecter une zone et puis ça nous permet d'être une petite souris dans tout ça et d'écouter un peu ce qui se passe en étant très discret.
Sur toutes les baleines référencées, est-ce qu'il y a des baleines que vous n'avez jamais enregistrées ?
Alors, ça va pas être, c'est pas des espèces de baleines que j'ai jamais enregistrées, mais c'est plutôt des signaux que j'ai enregistrés, mais je ne sais pas l'espèce. Ça va être l'inverse. On a, par exemple, enregistré pendant une dizaine d'années un signal qui faisait à peu près 28 Hertz, ce qui ressemblait beaucoup à une partie d'un signal de baleine bleue antarctique, justement. On l'a confondu pendant longtemps. Et puis, en fait, en regardant ça de plus près, on s'est rendu compte que non, en fait, c'était bien un autre type de cri. Et puis, on a étudié ça. Donc, on avait un jeu de données de 10 ans sur différents sites et on a vu quand est-ce qu'elle était présente sur les différents sites, où est-ce qu'elle n'était pas présente. On a découvert son patron saisonnier de présence, mais on ne sait pas qui c'est qui émet ce signal. C'est une baleine mystérieuse. Et il y en a a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui enregistrent des baleines sur des sites comme ça pendant plusieurs années, qui repèrent régulièrement des signaux d'espèces. On n'a jamais identifié, on n'a jamais eu la chance de tomber avec un hydro, enfin en tout cas avec un micro et la baleine pour savoir identifier l'espèce. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, les baleines, certaines évoluent vraiment, leur répertoire vocal est très variable. Il y en a d'autres qui ne l'est pas du tout, donc c'est difficile d'être exhaustif sinon sur les signaux des baleines qu'on connaît.
Justement, sur les spectrogrammes, est-ce qu'on peut identifier une espèce juste en voyant le motif ?
Le spectrogramme, c'est vraiment une représentation en temps et en fréquence et en énergie d'un signal. Donc si le signal, dans son onde, elle est vraiment particulière et propre à une espèce, bah, sur le spectrogramme, tu vas la retrouver. Et juste en regardant le spectrogramme, bah, tu peux dire, bah, là j'ai une baleine bleue antarctique, là j'ai une baleine bleue pygmée d'Australie. Ça, c'est pour les espèces de baleines qui ont des cris stéréotypés, comme on dit. Après, il y a des espèces, par exemple, je pense aux dauphins avec leur sifflement et tout ça, où c'est un peu plus complexe, en tout cas, de dire bah, là, c'est sifflement de telle espèce. Ouais, pour certaines espèces, c'est un peu plus complexe. Ouais.
Vous nous avez parlé aussi des différents bruits d'ambiance océanique.
Alors, en fait, quand tu mets un micro sous l'eau, tu vas enregistrer ce qu'on appelle un paysage sonore sous-marin. Et ce paysage sonore sous-marin, il se décompose en trois parties. Une partie qui est émise par des sources biologiques, ce qu'on appelle la biophonie. Après, tu as une partie aussi de sons d'origine naturelle, mais pas d'origine biologique. Donc ça va être tremblement de terre, la pluie, le vent, les vagues. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la géophonie, hein. C'est plus des sons terrestres. Et puis après, la troisième composante, c'est ce qui va être lié à l'homme. C'est l'introduction d'un bruit émis à l'homme dans l'eau. Et tout ce que va émettre l'homme, on va appeler ça de l'anthropophonie. Donc c'est les trois catégories des paysages sonores sous-marins.
Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle si le son que l'homme produit a un impact sur les baleines et sur les animaux marins ?
Alors on a, au niveau de l'impact du bruit anthropique sur les populations, enfin sur la faune marine en général et sur les cétacés, on commence à avoir des indices, on pense sincèrement qu'il y a un impact. Mesurer à quel degré, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'études qui travaillent là-dessus. Beaucoup d'études. En fait, ça a commencé, on a commencé à un peu s'affoler de ça à cause des exercices militaires qui ont été faits au large des Bahamas dans les années 90. On a vu des baleines, surtout des grands plongeurs en fait, assez frais, qui se sont échoués comme ça sans raison particulière. Et là, on s'est dit, bon, là, il y a peut-être un impact lié aux activités militaires. Et du coup, différents pays se sont mis ensemble pour travailler sur cette question-là et pour vraiment étudier l'impact, pour minimiser justement cet impact. Donc ça, c'est des études qui sont faites ici en France par Charlotte Curé du CEREMA. Après, il y a différentes études qui sont faites sur l'effet du trafic maritime, par exemple. Parce que le trafic maritime, c'est un bruit en continu. Je parlais tout à l'heure d'autoroute, parce que c'est un bruit qui ne s'arrête pas du tout. Et il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Et pour l'anecdote, par exemple, quand il y a eu l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, ils ont arrêté le trafic aérien et le trafic maritime a été stoppé. Et ils ont fait des études sur les baleines à ce moment-là. Donc c'était un programme de suivi qu'ils faisaient régulièrement au mois de septembre. Et en fait, ils se sont rendus compte que sur cette année-là, en tout cas quand ils ont prélevé des hormones de stress directement sur les baleines, ils se sont rendus compte que cette année-là, les hormones de stress, elles étaient particulièrement basses par rapport aux prélèvements qu'ils faisaient avant et après. Donc on pense qu'il y a vraiment quelque chose. Après, il y a des tas d'indices qui nous disent, des fois elles accélèrent leur son, elles chantent deux fois plus fort ou deux fois plus vite, ou elles changent de fréquence. On commence vraiment à avoir différents impacts là-dessus. Après, dire que ça, jusqu'à quel point elles s'adaptent ou à quel point elles... ça peut vraiment causer des dommages, bon, létales comme les essais sonars, mais là c'était vraiment une peur panique qui a fait que l'animal est remonté très très vite et... Mais ça, c'est des sons très, très intenses. En fait, il y a plein d'études sur ça. On distingue les sons impulsionnels qui seraient des sonars militaires, des choses comme ça, et les sons un peu continus, comme le trafic maritime et tout ça. On distingue un peu les deux. Donc, les impacts ne sont pas les mêmes. Les études, mais il y a beaucoup de travaux là-dessus. C'est vraiment au cœur de la recherche et des préoccupations aussi gouvernementales aussi sur beaucoup de pays quoi.
En termes de population de baleines, qu'est-ce qu'ils nous disent ces enregistrements de l'évolution des populations sur les zones où vous les étudiez ?
Alors moi, je travaille dans l'océan Indien et dans la zone en fait océan Indien, océan Antarctique. Donc c'est une zone, faut imaginer, elle fait 9 millions de kilomètres carrés. On a 10 hydrophones dans cette zone-là, donc on couvre quand même un très grand secteur. C'est une zone où, historiquement, il y avait beaucoup de chasseurs qui venaient y capturer des baleines, jusque dans les années 60-70. Les chasseurs, en tout cas, à la fin des années 50, début des années 60, ils avaient remarqué que les baleines qui chassaient au-dessus du 60 degrés sud, au-dessus du parallèle 60 degrés sud, ils voyaient, en tout cas, les baleines qui chassaient, elles étaient plus petites, parce qu'ils faisaient des mesures d'anatomie. Et puis les baleines qui étaient en dessous de cette... ça, c'était plutôt des grandes baleines. Et ça, on s'arrêtait là. Et ils ont dit, les baleines qui sont au nord, c'est plutôt des baleines bleues pygmées, parce qu'elles sont plus petites, des baleines bleues pygmées. Et en fait, ce qui a révélé l'acoustique, et ça c'est génial, c'est qu'on voit bien la différence, parce qu'en mettant ces hydrophones là qui couvrent tout ce secteur, et on voit bien la répartition. On a des baleines bleues antarctiques en dessous de 60 degrés sud, mais on en a aussi au-dessus, donc ils devaient un petit peu se tromper. Par contre, les baleines bleues pygmées ne descendent pas plus bas. Et on a vraiment des grandes populations de baleines bleues pygmées qui se partagent comme ça l'océan Indien. Et ça, c'est des choses vraiment qui sont assez nouvelles. En tout cas, on ne savait pas. C'est des zones qui sont peu explorées et il y avait juste les données de chasse en fait, qui nous donnaient de l'info. Et donc là, ça a vraiment complété des schémas de migration, des schémas de distribution, des schémas de présence. C'est vraiment la répartition géographique. Répartition géographique contemporaine, en fait. Parce que jusqu'à présent, on avait... on épluchait les logbooks des chasseurs et on avait quelques infos. Mais là, on a vraiment des données contemporaines.
Est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas de baleines échouées à cause du plastique ?
Pour moi, la pollution plastique, elle est énorme. J'ai des collègues, en tout cas, qui sont à l'UMS Pélagis, qui s'occupent du réseau national d'échouage. Et donc, eux, ils centralisent en tout cas toutes les informations sur les cétacés échoués sur les côtes françaises. On en entend de plus en plus parler, on en voit de plus en plus. Quand on ouvre, surtout les grosses baleines, quand on leur ouvre le bide, elles ont beaucoup, beaucoup de déchets plastiques. C'est vrai pour les oiseaux aussi, les tortues. Ça, pour moi, c'est vraiment dramatique. Alors ça, la pollution microplastique aussi, parce que tout ce plastique ne se dégrade pas. Il devient des microplastiques tout petits. Et les baleines, en fait, elles les ingèrent aussi comme elles ingèrent du krill, en fait, et elles ne le filtrent pas, ça. Elles l'avalent aussi. Alors, je ne suis pas au fait, je suis pas la spécialiste de ça, donc je pourrais pas. Je sais qu'il y a eu plein de travaux récents là-dessus, mais je connais pas tout. Mais pour moi, c'est aussi. C'est pas comme la pollution sonore, mais la pollution plastique, c'est dramatique, quoi.
Vous utilisez le son à des fins scientifiques. Est-ce que justement l'enregistrement de ces paysages sonores, ça vous donne pas envie de faire de la création sonore ?
En étant là au festival Longueur d'onde, oui. C'est vrai que, en fait, je ne me posais pas trop la question jusque-là. Je me disais, t'enregistres des sons pour tes questions baleines, écologie, conservation et tout. Mais je me rends compte que ça pourrait être des choses qui sont assez intéressantes, plutôt que les sons restent sur mes disques durs, sur mon bureau, de partager avec des gens qui savent très bien faire ça, parce que moi, je suis incapable. J'ai été plusieurs fois contactée sur des gens qui voulaient faire de la danse sur des champs de baleines ou des choses comme ça. Ça, j'aime bien, parce que je me dis, ça permet aux gens en fait de valoriser aussi un peu de ce qu'on fait, quoi, parce qu'en fait c'est dommage que ces enregistrements ils restent à dormir, quoi. Mais c'est vrai que j'ai tellement la tête dans le guidon que j'y pense pas du tout, quoi. Mais quand j'étais gamine, j'écoutais, j'avais des CD avec des compositions sur des chants de baleines, en fait.
Univox.
On a cassé la planète, il est où le SAV? Tout le monde savait.
Dans la vie, il y a des cactus. Et sur ce même cactus, depuis, il y a du plastic eye sur les plages de Koh Lanta. Derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février, y'a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, Laurent Houtan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. La planète, il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
C'était Suzanne avec le titre « Il est où le SAV ?». Vous écoutez Univox. Cette semaine, Radio U, la radio campus de Brest, vous parle océan, écologie et création sonore. Dans le cadre de la 17e édition du festival Longueur d'onde, une journée était consacrée à ces questions. Si Flore Samaran, enseignante-chercheuse à l'ENSTA, collecte les sons marins avec une visée scientifique, Zoé Sulico, quant à elle, nous propose de nous immerger d'une autre manière dans les océans. Elle est l'auteure d'une fiction sonore, Rascasse le vieux marin. Dans le cadre du festival, une séance d'écoute était proposée aux enfants des écoles primaires de Brest. L'objectif, les faire rêver, mais aussi les sensibiliser aux questions environnementales.
Bonjour, je m'appelle Zoé Sulico et je suis créatrice sonore, j'habite à Bruxelles. J'ai fait ma première fiction sonore pour enfants qui s'appelle Rascasse le vieux marin, qu'on vient d'écouter à l'Océanopolis de Brest.
Alors Rascasse le vieux marin, qu'est-ce que ça raconte ?
C'est l'histoire de Rascasse, qui est donc un marin qui se rend compte que depuis quelque temps, quand il part à la pêche, il ne pêche plus de poissons et qu'à la place, il pêche des objets. En fait, en se promenant sur la plage, il trouve une bouteille en plastique et il se demande s'il y a une causalité entre cette bouteille en plastique et le départ des poissons. Et là, la mer, en fait, l'attrape et lui donne une mission, c'est de l'aider à nettoyer ses fonds marins. C'est un conte écologique assez joyeusement fait.
Pour petits et grands.
Voilà.
Justement, dans le conte, il y a beaucoup de bruitages faits avec des déchets.
Alors, c'est vraiment l'envie première de l'adaptation de cette histoire. C'est que, comme effectivement, il est vraiment question de déchets et notamment beaucoup de plastique, j'avais très envie de travailler cette histoire d'un point de vue sonore avec des déchets aussi et surtout des matières plastiques qui peuvent être recyclées. L'idée, c'était de construire les instruments, notamment, avec ce qu'on a sous la main. Et donc, ce qu'on a sous la main, là, c'est proportionnellement beaucoup plus de déchets que des matières premières, malheureusement.
C'est pour faire la montagne de déchets. Alors, du haut d'un escalier, on a jeté d'abord des capsules, des petites capsules de bouteilles en plastique, puis des grandes capsules, puis des petites capsules de bière en métal, etc., qu'on a balayées dans l'escalier pour donner l'impression d'objets qui dégringolent. comme quand on marche sur un gros tas de déchets, il y a des petits cailloux, des choses qui tombent, et donc en fait on entend les bouchons.
Il y a beaucoup d'instruments de musique aussi qui ont été créés.
Oui, en fait, la première musique qui est, que j'avais appelée l'éveil de la ville est enregistrée avec des instruments classiques. Donc il y a deux violons, un violoncelle, une contrebasse, un piano, des marimbas, une batterie et des cuivres. Et après, on a réenregistré ce même thème qu'avec des instruments recyclés. Donc ce sont exactement les mêmes. Donc ils étaient une quinzaine de musiciens et donc tu as à chaque fois une quinzaine d'instruments.
Ça, c'est ma batterie. Alors, c'est la batterie la plus légère et la plus simple à transporter. C'est une plaque de carton avec deux brosses pour faire la vaisselle. Pour changer un peu le son, on lui a mis un bouchon en plastique dessus. Pour donner un son un peu étouffé comme ça quand on est sous l'eau.
Est-ce que vous avez appris quelque chose sur les déchets?
Oui. Faut beaucoup trier, ben, on savait déjà, mais on ne faisait pas beaucoup et maintenant on sait beaucoup mieux à quoi ça sert.
Et est-ce que vous saviez qu'on pouvait faire des instruments de musique avec des déchets?
Oui, on avait vu ça dans un livre.
Médiathèque.
Et aussi dans le conte, on entend des petits bruits. On a vu tout à l'heure justement dans les bruitages que c'était des bruits de bouchons. Est-ce que vous le saviez, vous?
Non. Moi, je savais, j'avais...
Toi, t'avais deviné.
Oui, parce que, en fait, j'avais déjà fait tomber des fois, parce que j'aime bien, enfin, devant la porte de ma sœur, parce que j'aime bien, des fois, l'embêter un petit peu.
Vous avez mis combien de temps pour la réalisation de ce projet?
Alors, j'ai mis 2 ans entre le moment où j'ai écrit le dossier et le moment où j'ai eu le CD entre les mains.
Quel est le message principal de ce conte?
C'est vraiment un message écologique et effectivement, il est très, très ancré dans notre temporalité actuelle. C'est aussi une manière de dire, mais ça, c'est un de mes credos en tant que créatrice sonore, c'est que le son est infini et qu'il n'y a pas de barrière à l'imaginaire ni à la conception. Et donc, on peut développer l'imaginaire en construisant et en produisant nous-mêmes nos sons.
Ça, on a testé, on a essayé avec des pois chiches, des noix, des petits cailloux, des haricots. Mais ça, c'était trop gros, ils descendaient tous d'un coup, ça n'allait pas du tout. Les sirènes, elles sont là. Et ben, je vais vous dire, c'est pas facile à faire. Ça, c'était surtout quand on est au fond, quand on reste cassé au fond de l'eau et qu'il y a des poissons et des créatures qui viennent les voir.
C'est ma première fiction et ça ne sera pas la dernière. Mais voilà, c'est pour l'instant, je développe beaucoup de choses, notamment un label qui s'appelle l'Écoute Buissonnière, où on est trois structures francophones, donc nous en Belgique, il y a la CSR, il y a la Puce à l'oreille à Montréal et l'Armada Production à Nantes. En fait, on s'est mis en commun pour initier, développer, créer tout ce qui est l'univers sonore auprès du jeune public, avec un contenu de qualité.
Comment vous avez eu l'idée de réaliser ce projet? Il y a quelque chose qui vous a marqué?
Alors, comment j'ai eu l'idée de faire ce projet? C'est vraiment... c'est un livre à la base, Rascasse le vieux marin, qui n'a pas eu beaucoup de chance, puisque quand l'histoire est sortie, la maison d'édition a fait faillite. Donc, elle n'a pas vraiment pu naviguer, on peut dire ça comme ça. Et je l'ai rencontré par hasard. Et c'est tombé au moment où ma fille était vraiment petite et qu'on lit un peu 200 fois la même histoire en un très très court temps et que dès la première lecture, à chaque fois que je lisais cette histoire, j'avais tout l'environnement sonore qui me venait dans la tête et que je reproduisais comme ça oralement à ma fille. Et plus je lisais cette histoire, plus j'avais envie de l'adapter. Et ce qui la particularité, je dirais, c'est que c'est une histoire où il y a très très peu de texte, contrairement aux histoires en général pour enfants. Il y a très peu de textes et ce sont les illustrations de Frédéric Cartier-Lange et Elsa Huet qui m'ont vraiment donné envie de le traduire et de le réécrire pour le sonore.
Est-ce que vous auriez un message à faire passer pour les gens qui trient pas bien leurs déchets et qui jettent partout des déchets?
Oui, de bien trier, sinon ça pollue la planète et c'est pas bien pour notre environnement.
Bah, essayer de soit réutiliser ou soit en faire quelque chose d'autre ou des choses comme ça.
Faut mieux trier parce que là on voit plein des tortues qui se prennent des sacs plastiques dans la mer et
la terre est bien polluée et ce serait dommage qu'elle soit encore plus et
on voit déjà beaucoup de conséquences, comme la couche d'ozone qui s'aggrave, donc la chaleur qui va aller sur les banquises. Du coup, en fait, c'est pas que les banquises qui sont en danger de mort, mais aussi les animaux.
Et il y a aussi un septième continent qui se compose de déchets. Quand on jette des déchets dans la mer, ça rejoint à un seul endroit. Et du coup, ça fait pratiquement un continent, tellement il y a de déchets qui se regroupent là-bas.
Nous remercions Fleur Samaran, enseignante-chercheuse à l'ENSTA, et Zoé Sulico, auteure de Rascasse le vieux marin, un conte sonore, onirique et écologique pour petits et grands, avec la voix de Denis Lavant. Une fiction que vous pouvez écouter en ligne sur le site de l'atelier de création sonore radiophonie acsr.be. Pour retrouver le travail de Fleur Samaran et en apprendre plus sur les baleines, rendez-vous sur le site internet ensta-bretagne.fr.